Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Je voulais aussi vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés. C'était vraiment chouette. Et ça m'a donné une idée, j'aimerais bien continuer de vous entendre dans mes carnets sonores. Et j'ai dans l'idée de mettre en place une sorte de petite question à chaque carnet sonore ou pour un mois, je sais pas, et de vous la soumettre et de mettre vos réponses dans mes carnets. Donc ça fonctionnerait... Pareil, je pense, soit avec le répondeur des carnets sonores qui est sur mon site, ou alors je pense que vous pouvez vous enregistrer via votre smartphone et me l'envoyer par mail, je mettrai mon adresse mail, ou via Instagram, on peut envoyer des messages vocaux aussi et je peux les mettre dans les insérer dans mes carnets sonores. Donc voilà, l'idée c'est de faire une petite communauté autour de moi, ce qui me passionne, et j'espère vous, ce qui vous intéresse, à savoir la vie paysanne, la vie créative, ce que vous aimez, la lecture, le fait main, la vie dehors, marcher, enfin voilà, plein de choses. Donc, ces carnets, ils ont un an, et je suis ravie du format que j'ai choisi et que je fais, parce que mon premier podcast était beaucoup plus lourd pour moi à gérer, parce que je voulais respecter un format d'environ une heure, je voulais respecter des sujets, enfin des segments, et voilà. Donc là c'est vraiment libre, et les sujets sont multiples comme mes centres d'intérêt, et voilà. Donc l'idée c'est de vous poser une question dans mes carnets sonores et d'avoir votre réponse vocale. Voilà. Oh là là, il y a mes brebis et mes agneaux qui arrivent en courant dans la pente. Ah ben il y a mon petit sang. Oh, je l'avais pas vu. Oh, il a l'air d'aller mieux. Oh, c'est un petit agneau qui allait pas trop bien et... Ah oui. Ah super. Voilà. Alors, je voulais vous faire un petit historique des carnets sonores. Donc, c'est né il y a un an, à peu près au moment du confinement, ou juste après, je sais plus, du premier confinement. En fait, j'ai trouvé ça... Alors, nous, on l'a très bien vécu, parce que ça nous a pas tellement changé notre mode de vie, à vrai dire. On n'allait pas vraiment en ville, on n'allait pas vraiment au cinéma, ni au resto. Ou... Bien que le fait que ce soit fermé et tout, on se rend compte que ça manque. Mais c'était pas des choses régulières, enfin bref. Et ce premier confinement, ça m'a un petit peu, rendu triste pour les personnes qui n'avaient pas la chance d'avoir la nature à proximité, qui étaient dans des petits espaces, des foyers clos assez restreints. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux aider un tout petit peu à mon échelle à ce que une personne, deux personnes, trois personnes trouvent un peu de réconfort et s'évadent un peu de ce confinement. Donc moi je suis une très grosse consommatrice de podcasts, j'en écoute beaucoup et c'est un format qui me correspond très bien parce que en fait je regarde très peu de vidéos, d'images, parce que c'est vrai que dans tout ce que je fais, mon regard est pris entre guillemets, même quand je fais dans mon temps libre, quand je tricote ou bref, j'aime beaucoup regarder ce que je fais et j'aime bien être dans le silence et puis des fois j'aime bien avoir des podcasts. Et donc je me suis dit je vais essayer de faire un format un peu différent et un format qui sorte de les gens de leur quotidien un petit peu long. Donc c'est comme ça que sont nés les carnets sonores. Et donc l'idée c'est pas de remplir le vide ou le silence parce que c'est des moments je trouve qui sont à valoriser et dont on a besoin. Par exemple, je me suis aperçue au début, mais c'était il y a presque, peut-être pas 10 ans quand même, mais 6 ans, 8 ans. Au début des podcasts de tricot, j'en regardais un petit peu, j'aimais bien. Et puis, c'est quand même difficile pour moi de tricoter et de pas regarder ce que je fais. Un, je sais pas faire. Et deux, je me suis aperçue que j'avais pas trop envie de m'entraîner pour savoir le faire, arriver à le faire. Parce que ce qui me fait du bien dans le fait de faire des choses de mes mains, c'est d'être concentrée sur le processus. Et c'est là que je pense à rien, que je m'évade, que... Voilà. Donc le format sonore, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et il y a quelque chose pour moi de vraiment particulier dans le fait d'écouter des voix. Je trouve ça très intime, quelque part, et très agréable. Et puis souvent c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts et j'aime beaucoup aussi les livres audio. Et c'est vrai que je peux faire une tâche très fastidieuse, notamment désherber une planche de 60 mètres de carottes en plein été. je peux facilement passer 3 heures accroupie avec un livre audio ou même un podcast, que j'arrive difficilement à être dans ma bulle 3 heures de suite sans penser à ce que je fais, quoi. Donc voilà l'importance des voix et du monde sonore dans ma vie. Donc voilà, ces carnets sonores, c'était pour dire une sorte de merci aux gens qui en font et que j'écoute. Et puis faire ma part, entre guillemets, faire ma part, quoi. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais réfléchir à la question. Et puis je vais essayer de faire des notes correctes cette fois pour cet épisode, pour vous expliquer, mettre les liens, tout ça, tout ça. Voilà, bon alors là je vais voir mes autres petits lots et puis après je vais rentrer à la maison parce qu'aujourd'hui c'est grand ménage avec musique à fond. Alors je suis dans le grand champ avec mon lot de brebis et d'agneaux et je viens de biberonner mes petits biberons. Et je viens d'avoir un appel de ma technicienne ovine en fait. Et on a fait des coprologies, donc c'est des prélèvements de fesses pour voir si tout va bien, s'ils sont parasités ou pas, s'ils sont parasités, si c'est beaucoup ou pas trop, et voilà. Donc sur les agneaux, j'ai un peu de parasitisme, notamment ténia et coccidie. J'ai des parasites internes. Et sur les brebis, j'ai de la petite douve qui ressort pas mal. Donc je suis un peu pas déçue, mais la mise à l'herbe, c'est un peu le moment où c'est plus compliqué pour moi. Enfin, pas pour moi, pour mes agneaux. Et en fait, donc cette année, j'ai essayé de tout bien faire selon mes idées, convictions, mode de production. Et donc pour les brebis, j'avais déjà fait des copros juste à la fin de... Oh ma doudou! Juste à la fin de l'agnelage. Et il était déjà ressorti qu'il y avait de la petite douve. Donc ça c'est un parasite qui se met dans le foie en fait. Et ça peut être ou mortel. Et en tout cas c'est préjudiciable pour la brebis parce que ça peut la faire maigrir. Et bien sûr donc pour la production de lait. Donc il y a un mois, un peu plus d'un mois peut-être, j'avais déjà fait des copros, il était ressorti sur les brebis de la petite douve. Et donc ma technicienne ovine classique je dirais, enfin, m'a conseillé de faire un antiparasitaire normal, c'est un valbazène, voilà, pour blanchir, entre guillemets, les animaux, ça veut dire les débarrasser de leurs parasites. Donc nous on est en bio, donc on a le droit sur ordonnance, copro et tout, à je crois 3 antiparasitaires par an, il me semble. Mais j'étais pas trop à l'aise, enfin ça me plaît pas trop ce genre de solution et du coup il y a un an en fait, Lobistan, il y a un an j'ai adhéré à un groupement de vétérinaires, c'est le GIE Zone Verte, et ils font des suivis d'élevage. Donc, suite à ces résultats de copro, j'ai appelé ma vétérinaire du GIE Zone Verte, et elle m'a dit, avant de traiter, on va essayer d'autres choses, quoi. Donc, elle m'a conseillé des poudres à base de plantes d'une entreprise qui s'appelle Symbiopole. Elle m'a conseillé de faire une cure de lierre grimpant et à la fin de cette cure de leur administrer une dose assez importante de chlorure de magnésium. Donc, c'était un peu plus compliqué que de faire le traitement, disons, allopathique, mais moi, ça m'allait mieux. Donc, j'ai fait ça, j'ai acheté les poudres de plantes, et puis j'ai fait des cures et le chlorure de magnésium, voilà. Et donc là, eh ben, il ressort qu'il y a encore de la petite douille. Bon, c'est pas trop étonnant, quoi. Je veux pas en avoir zéro, c'est pas l'objectif, bien sûr. Mais il y en a encore pas mal. Et il ressort sur les agneaux qu'ils ont du ténia, donc, et des coccidioses. Donc, voilà, je m'interroge un peu sur qu'est-ce que je peux faire maintenant. Attends, non, doudou. Oui, t'es mignonne. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que je continue en médecine alternative ou est-ce que je donne le traitement valbazène? Voilà, c'est assez compliqué de savoir ce qu'il faut faire et puis il y a plusieurs objectifs, il y a plusieurs temporalités, il y a plusieurs... c'est compliqué quoi. Donc il y a l'objectif bien sûr d'être rentable parce que moi je dois en vivre de cet élevage. Il y a l'objectif d'être en bio et de respecter ses règles. Il y a mes convictions. Il y a le fait que j'ai envie de créer un troupeau de brebis rustiques qui est adapté à mon système, c'est-à-dire à l'herbe et les agneaux à l'herbe, voilà. Avec pas de grains achetés, le foin de la ferme, etc. Oui, mais attends, doudou, je parle. Non, je fais un petit câlin à Bibi en même temps. Donc voilà, c'est compliqué. Il y a plusieurs temporalités, comme je disais. Il y a le moment, quoi, dans le mois. Ce que je fais. Arrête, doudou, je te caresse, mais tu sautes pas. Ce que je fais dans le mois, ce que je fais pour un individu, pour le troupeau. Il y a la rentabilité à la fin de l'année. Il y a la sélection du troupeau dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Enfin, il y a tout ça, quoi. Il y a plusieurs échelles, comme je disais. L'échelle de l'individu, l'échelle du troupeau. Et puis, dans tout ça, il y a les années et le temps, quoi. Là, on a un printemps plutôt sec, ce qui est... pas mal, je dirais, pour les agneaux à l'herbe, sec et froid, ce qui limite quand même la prolifération des parasites. Mais en contrepartie, ben moi j'ai pas beaucoup d'herbes qui poussent, donc voilà. Donc on en est là de mon petit lot de brebis et d'agneaux. Et là, il y a donc la majorité des agneaux sont assez beaux, assez vifs, mais là j'en vois deux trois qui commencent à un petit peu à ralentir, un petit peu à être moins en forme. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au vétérinaire normal et j'achète un traitement et je le fais? Ce qui m'avancera pour les mois à venir, mais pas pour les années à venir. Est-ce que j'accepte un certain pourcentage de perte en me disant c'est de la sélection, mais dans le même temps je vais pas respecter mes ratios de productivité. Voilà, on en est là de l'élevage. Ouais, c'est compliqué quand même. Compliqué. Et oui, il y a quelques semaines j'ai eu un contrôle en fait sur les aides ovines. Et bon, ça s'est bien passé, mais... c'est encore autre chose, quoi. En fait, les brebis sont à la PAC, sont primées. Je crois qu'on touche 21 € par brebis. Mais pour avoir cette aide, faut respecter un certain nombre de critères, avoir plus de 50 brebis, vendre suffisamment d'agneaux par brebis, et voilà. Ah bah, y a un petit agneau qui se réveille là-bas. Donc voilà, il y a tous ces objectifs, je sais pas trop quoi faire, mais bon, on verra. C'est pas facile parce que d'un côté, vous allez voir le vétérinaire entre guillemets normal qui vous dit « Oh là là, vous avez de la petite douille, faut traiter, ça va pas aller », ce qui est concevable effectivement. Et puis de l'autre côté, il y a le vétérinaire un peu plus sur les médecines alternatives qui me dit « Ben tiens, on va essayer ça ». Donc là, j'ai essayé, il n'y a pas tellement eu de baisse sur la petite douille en tout cas. Est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce que... je sais pas. Vous entendez? Les petits agneaux qui cherchent leur maman. Il y a du soleil ce matin, donc ils étaient couchés, bien endormis.
Et là, je suis en train de câliner ma petite 161. Oui, c'est de toi que je parle. Allô, Doudou, elle est là où, maman? Ah, mais non. Bah oui. Allez, vas-y.
Attends, j'oublie. Oh, oui. Oh là 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 là. Oh, moi, chouchou. Oh là là. Oh, j'adore ces moments. Là, on fait un gros, gros câlin. Elle a juste sa tête collée à ma tête. Et puis, moi, je lui caresse sous le ventre. Je lui caresse les joues, le cou, derrière les oreilles. Lopi est couché. Il regarde le troupeau aussi. Et voilà. Bon, ben moi je vais aller voir mes béliers, mes agnelles et puis mon petit lot de brebis qui devrait bientôt agneler.
Attends Doudou, j'éteins. Non, pas l'oreille.
Donc ce samedi 17 avril, c'est la journée mondiale des luttes paysannes. Et en fait, cette journée a été instituée après un événement assez tragique qui est arrivé le donc 17 avril 1996, donc il y a plus de 20 ans, presque 25. Et cette journée-là, en fait, 19 paysans du mouvement des travailleurs ruraux sans terre du Brésil ont été assassinés par des tueurs à la solde de grands propriétaires terriens. Et ce massacre a eu lieu alors que l'association Via Campesina se réunissait donc au Mexique. Donc en mémoire de cette tuerie, les membres de Via Campesina ont déclaré cette journée du 17 avril, journée mondiale des luttes paysannes. Donc Via Campesina, c'est une association. Et en fait, c'est une association qui est là pour protéger, valoriser les paysans. Donc partout dans le monde, les paysans qui en fait représentent sur la terre entière plus de la moitié de la population, ils sont touchés en fait par la globalisation des échanges économiques et culturels. Et donc les luttes paysannes se concentrent sur le droit à la terre, le droit à la transmission des semences. Et dans plusieurs régions du monde, ces luttes paysannes sont réprimées dans le sang et font beaucoup de victimes chaque année. Alors il y a des meurtres, des assassinats. Et puis il y a aussi des pertes dans le monde agricole, dans le monde paysan, par les suicides. Les suicides qui sont engendrés par des faillites, la misère, et tout ça est induit par les propriétaires fonciers, les multinationales de l'agroalimentaire, des biotechnologies et certains gouvernements complices. Donc chaque année, le 17 avril, c'est une occasion de sensibiliser la population mondiale aux luttes paysannes de nos pays, mais aussi dans le monde entier. Donc Via Campesina, c'est un mouvement international qui coordonne les luttes de plus de 70 organisations de paysans et paysannes, de travailleurs agricoles, de femmes rurales, de communautés indigènes provenant des cinq continents. Via Campesina, c'est un mouvement indépendant de toute organisation politique, économique ou religieuse. Elle est composée par des organisations nationales ou régionales dont l'autonomie est respectée. L'organisation a été créée en 1993 en Belgique et elle a défini ses grandes valeurs, ses grandes orientations en 1996 au Mexique. Donc actuellement, le secrétariat international est situé au Honduras et Via Campesina poursuit ses objectifs d'accroître le pouvoir de négociation des paysans dans leurs pays respectifs, d'améliorer leurs conditions de vie, de favoriser la participation des femmes à l'organisation politique, sociale et économique. Via Campesina veut aussi défendre la souveraineté alimentaire, dont on a entendu parler beaucoup lors des... du début de la Covid-19, c'est des mots qu'on n'entend plus trop, mais moi ça me faisait plaisir de les entendre à la radio. La propriété collective des semences, c'est-à-dire qu'il est important de lutter contre la privatisation du vivant. Elle élabore aussi des solutions sur les enjeux des réformes agraires qui se pratiquent partout dans le monde, les enjeux des biotechnologies, également du commerce international et de la protection de l'environnement. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette association, y a un site en fait, si vous allez sur www.viacampesina.org, vous avez toutes les infos Et il y a un site donc en anglais, il y a un site en français et il y a également un site en espagnol. Donc je vais vous lire leur article qu'ils mettent pour cette journée. Journée internationale des luttes paysannes, déclaration de la Via Campesina, à Harare le 15 avril 2021. Ce 17 avril 2021, à l'occasion de la Journée internationale des luttes paysannes, nous réaffirmons notre vision à long terme de la souveraineté alimentaire et appelons à renforcer notre solidarité contre la criminalisation croissante de nos luttes. Les meurtres et la répression des paysans, paysannes, des peuples indigènes, de celles et de ceux qui luttent pour les droits de leur communauté, pour la dignité et l'équité dans le monde, doivent cesser. Tout en faisant bloc pour exiger le plein respect de nos droits et la fin de l'impunité, de la criminalisation et des massacres, nous sommes conscients du contexte social et économique difficile auquel sont confrontés de nombreux et nombreuses paysans, paysannes et peuples dans le monde. La poursuite de la pandémie de la Covid-19, une crise sanitaire qui a débuté en 2020, a entraîné plus de 2 millions de décès dans le monde. Je crois qu'aujourd'hui on est à 3 millions, il me semble. Les mesures prises pour atténuer et arrêter la propagation de la pandémie ont provoqué une profonde crise sociale avec de graves reculs des droits des travailleurs, une progression du chômage, de la corruption, de la misère, de la faim et de la violence. Cette crise sanitaire, qui survient en même temps que la crise climatique actuelle, ne fait qu'aggraver la situation sociale et économique du plus grand nombre. Les lobbies de l'agrobusiness et des multinationales ont intensifié leurs efforts pour s'emparer des espaces de gouvernance mondiale démocratique. Invoquant l'aggravation de la faim, certains ont appelé les gouvernements à lever l'interdiction de l'utilisation des OGM. Tandis que certaines grandes entreprises, sous couvert de la pandémie, ont collaboré avec des décideurs politiques pour assouplir les lois protégeant les ressources naturelles. Nous avons assisté à des tentatives délibérées de fermer la participation de la société civile au processus d'élaboration des politiques mondiales et aux espaces des Nations Unies. Le déplacement des réunions du Conseil des droits de l'homme et d'autres événements en ligne a limité la participation des paysans, paysannes et communautés autochtones. Le réalignement actuel des forces et des acteurs géopolitiques, illustré par les tensions accrues entre les nations économiquement avancées, États-Unis, Union européenne, contre Chine et Russie, etc., la militarisation accrue en cours en même temps que le partage des marchés mondiaux entre ces grandes nations et la réintroduction des tarifs commerciaux afin d'empêcher la concurrence étrangère entre les alliés, États-Unis contre Union européenne, sont des appels de détresse d'un système capitaliste en décomposition. La concurrence pour les sources de matières premières, en particulier les minéraux rares, et les appétits pour les différents marchés mondiaux sont la cause inévitable de conflits armés et de guerres dévastatrices. Cela a aggravé la crise des migrants en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. Les multiples crises auxquelles le monde est confronté ne sont pas nouvelles. Nous devons nous en servir pour faire comprendre l'intérêt et la justesse de notre position qu'est la souveraineté alimentaire. Les crises alimentaires, climatiques, environnementales, économiques, démocratiques et sanitaires qui ont culminé avec la pandémie de la Covid-19 montrent clairement à toute l'humanité qu'une transformation du monde agricole et alimentaire actuel est indispensable. Chaque crise, qu'il s'agisse de la pandémie de la Covid-19 ou des pénuries alimentaires, nous a montré l'importance et la résilience des systèmes alimentaires locaux que le néolibéralisme continue à éroder et à affaiblir. Depuis sa naissance en 1993, la Via Campesina a développé et promu la souveraineté alimentaire comme une alternative aux relations de production capitaliste dominante, en particulier dans l'agriculture. Au cours de ces 28 années, la souveraineté alimentaire a gagné du terrain parmi les mouvements sociaux et les organisations de la société civile. La souveraineté alimentaire et l'agroécologie paysanne sortent renforcées de chaque crise. Elles s'affirment de plus en plus comme des solutions incontournables. La relocalisation des systèmes alimentaires est essentielle dans la lutte contre la faim. Pour refroidir la planète, préserver la biodiversité et respecter les droits des paysans, paysannes, travailleurs, travailleuses. De plus, la souveraineté alimentaire favorise la solidarité, essentielle pour l'avenir de l'humanité, à l'inverse de l'individualisme promu par le capitalisme. Le capitalisme a renforcé notre volonté collective de survivre. Ce sont les personnes et non les profits qui comptent le plus. L'heure est venue de transformer notre système alimentaire et de construire une société centrée sur nos valeurs. La Déclaration des Nations Unies sur le droit des paysans-paysannes est un outil politique essentiel pour renforcer les luttes paysannes à travers le monde. Nous, la Via Campesina, pensons que les gouvernements doivent formuler et mettre en œuvre de toute urgence les politiques publiques radicales pour apporter secours, dignité et équité à des milliards de personnes dont la survie ne tient qu'à un fil. Sans changement radical des politiques publiques, le désespoir augmentera, tout comme les effets secondaires, tels que par exemple la montée actuelle de l'extrême droite, du fascisme et d'autres formes de nationalisme totalitaire dans différents pays. La souveraineté alimentaire continue d'offrir la seule solution cohérente, une solution qui profite aux familles rurales ainsi qu'aux consommateurs-consommatrices dans nos pays. Après un travail considérable au cours des 28 dernières années, qui a permis de formuler des propositions, d'accumuler de l'expérience et de créer des alliances, nous avons une occasion historique de mettre en place de bonnes politiques en nous appuyant sur la Déclaration des Nations Unies pour les droits des paysans-paysannes et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Nous bénéficions du soutien de certains gouvernements progressistes, du rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, des processus du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale et de son mécanisme de la société civile. Cela doit être un outil pour la promotion mondiale de programmes de réforme agraire. L'accès à la terre pour ceux et celles qui produisent notre alimentation à petite échelle est un besoin urgent. Il devrait être une composante essentielle des politiques publiques que les pays devraient mettre en œuvre sur les territoires respectifs pour permettre des conditions de vie et de travail décentes dans les zones rurales. Nous travaillerons avec des gouvernements progressistes et des mouvements ruraux et urbains partageant les mêmes idées, ainsi qu'avec d'autres organisations pour surveiller et assurer la bonne mise en œuvre de ces politiques publiques nécessaires. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. Même les tentatives actuelles de l'initiative du Forum économique mondial d'organiser et de détourner le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires ne devraient pas entraver notre progression. Seuls les paysannes, les paysans et leur participation active dans l'élaboration des politiques alimentaires mènent à une solution durable, des politiques publiques basées sur la souveraineté alimentaire. Nous devons nous préparer, en tant que paysannes, paysans, à combattre et à résister aux multinationales, à l'agro-business, aux grands propriétaires terriens et à l'impérialisme. Afin de profiter de ce moment politique pour reprendre le contrôle de l'alimentation, la Via Campesina et ses alliés appellent les gouvernements à définir et affiner les propositions de politique publique pour atteindre la souveraineté alimentaire à tous les niveaux. Cela signifie la récupération de la capacité de production nationale, enracinée dans le secteur de l'agriculture paysanne et familiale par le biais de budgets du secteur public, de prêts garantis, de crédits et d'autres formes de soutien, y compris le soutien à la commercialisation directe entre producteurs, productrices, consommateurs, consommatrices. Nous demandons de véritables programmes d'accès à la terre pour renforcer l'agriculture paysanne et familiale, ainsi que les systèmes alimentaires et agricoles qui répondent aux besoins des villes et des campagnes. Nous devons renforcer les systèmes de recherche et d'assistance technique basés sur les échanges d'expériences entre paysans, paysannes et la recherche participative. En tant que paysans, paysannes, nous luttons également pour que la santé soit pleinement considérée comme un droit humain, notamment dans le cadre de la pandémie mondiale de la Covid-19. En tant que la Via Campesina, nous exigeons le droit à la santé publique et gratuite pour tous les peuples, tel que défini dans l'article 23 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, l'UNDROP. Cela comprend l'accès à la vaccination, mais aussi la possibilité d'avoir recours aux méthodes de médecine préventive et aux traitements de long terme. Les vaccins ne devraient pas être brevetés et ne devraient pas non plus être laissés sous le contrôle et le profit des grandes multinationales. S'ils sont brevetés, nous allons vers une marchandisation de la vie toujours plus importante. Chaque individu dans notre société doit avoir accès à l'information et être en mesure d'évaluer les traitements proposés. Nous affirmons que la santé commence par une alimentation saine et durable qui renforce le système immunitaire, comme le propose la souveraineté alimentaire, une manière de prendre soin du bien-être des personnes et de l'environnement. Il est temps de transformer notre système alimentaire. Il est inacceptable qu'au XXIe siècle, des centaines de millions de personnes aient faim alors qu'il y a assez de nourriture pour toutes et tous. Les inégalités et les violations des droits de l'homme s'aggravent. La criminalisation, la répression brutale et le totalitarisme augmentent partout dans le monde. En ce 17 avril 2021, nous disons « La lutte pour la dignité, pour la santé, pour des politiques publiques basées sur la souveraineté alimentaire et pour la protection de nos communautés et des ressources naturelles n'est pas un crime, mais notre droit. Les États ne doivent pas criminaliser nos luttes ni violer nos droits. Ils ne doivent pas non plus nous tuer. Leur devoir est de protéger nos droits. Nous sommes solidaires de tous les peuples qui luttent pour leurs droits aux quatre coins du monde. Avec la souveraineté alimentaire et la solidarité, nous pouvons atteindre la justice sociale et la dignité pour tous. Nous nourrissons le monde et construisons la souveraineté alimentaire. Mondialisons la lutte, mondialisons l'espoir. » Voilà, j'ai trouvé que c'était un super bel article. Triste, mais en même temps plein d'espoir. Donc c'est sur le site de Via Campesina, vous pouvez le retrouver. C'est un article qui a été publié pour la journée internationale des luttes paysannes. Et si vous voulez en savoir plus, il y a des petits mots-clés que vous pouvez chercher sur Facebook ou les réseaux sociaux, notamment le hashtag souveraineté alimentaire maintenant ou le hashtag pas de futur sans souveraineté alimentaire. Voilà. Ils ont un compte Instagram si vous êtes sur ce réseau social. Voilà.